CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Bonjour, bonjour et merci d'être avec nous dans ce MAG aujourd'hui à propos de la sortie ce mercredi du nouveau site internet du pays qui répertorie tout ce qui se fait de mieux en termes de tourisme et de tourisme durable. Ce MAG aussi à propos d'une conférence demain, une conférence du service inventaire du patrimoine du PETR du pays Midi-Quercy. C'est pour tout de suite. Partie de ce MAG à propos des décors peints dans les maisons du pays Midi-Quercy, état des dernières découvertes du service inventaire du PETR du pays Midi-Quercy lors d'une conférence. C'est demain à Bruniquel, demain à partir de 20h à la salle des fêtes. Une conférence donc autour des décors peints. Nous sommes avec Carole Staniski, bonjour.
Bonjour.
Sandrine Ruefli, bonjour.
Bonjour.
Et Léa Gérardin-Macario, bonjour tout autant.
Bonjour.
À trois, vous représentez aujourd'hui donc le service inventaire du PETR du pays Midi-Quercy. Quand on parle des décors peints, souvent on les voit dans les églises ou dans les grandes bâtisses, hein, en Tarn-et-Garonne notamment. Là, on va se pencher un petit peu plus sur les maisons domestiques, en termes de décors toujours.
Absolument. En fait, c'est la particularité de cette conférence, c'est qu'on connaît beaucoup mieux le décor des églises ou des châteaux. Je pense particulièrement au château de Bioul, à la peinture qui se trouve dans la chapelle castrale du XIVe siècle, qui est quand même qui a une sacrée notoriété en fait sur le territoire. La salle des Preux également dans le château. On a une autre église qui est celle de Notre-Dame de Sceaux à Montpezat-Quercy, qui a des peintures du XIVe siècle. Incroyable. Donc tout cet art-là est assez largement connu, mais en revanche, ce qui se trouve dans l'intérieur des maisons est beaucoup plus confidentiel et beaucoup et évidemment pas connu du plus grand nombre. Donc c'est ce qu'on va vous présenter demain soir à 20h à Bruniquel.
Quand on parle de décor peint, on parle de quoi exactement ?
Voilà, c'est assez simple, hein, parce que le décor peint, c'est une forme d'art qui se trouve sur les murs intérieurs ou extérieurs, enfin, tout simplement. Ça, la peinture murale, c'est ça. Les premières peintures murales sont les grottes ornées, donc ça remonte à la préhistoire. Et ensuite, le décor peint va jusqu'au graphe, hein, dans la rue. Le street art est également de la peinture murale. Donc, nous, on ne vous parlera pas à la conférence de grottes ornées, puisque la préhistoire ne fait pas partie de notre champ d'investigation. Donc, on commencera au Moyen-Âge. À peu près, on vous présentera des décors peints du XIIIe siècle, pour les plus anciens. Et ensuite, on ira jusqu'au XXe siècle. Mais on n'abordera pas non plus les graphes. Pourtant, il y en a des tout à fait intéressants sur le territoire, hein, dans des lieux... Château de Monteils, dans des lieux un peu abandonnés. Voilà. Là, il y a un point commun, par contre, qui est intéressant à dire en généralité sur la peinture murale. C'est qu'il y a. C'est fragile, en fait, quoi qu'il en soit. Comme le graphe, vous savez, les graphes sont destinés à. On graphe par-dessus un autre. La peinture murale, c'est pareil. À l'époque médiévale, on va faire un décor peint du XIIIe siècle. Et puis au XVIe siècle, on va rajouter un autre décor par-dessus. On va enduire, on en refait un autre. Et au XIXe, pareil. Au XXe, pareil. Donc il s'agit de gratter pour aller trouver la couche picturale la plus ancienne, en fait. Donc c'est quelque chose de fragile, en fait, dans le décor peint.
Et c'est ce qui fait la rareté du nombre de décors peints connus aujourd'hui dans les maisons du territoire qu'on étudie. C'est qu'ils ont été recouverts effectivement au fil des siècles, au fil des modes, et on a pu en découvrir, pas nous directement, mais souvent ces découvertes elles se font lors de travaux, et c'est grâce au relais qui se fait soit par les propriétaires qui sont assez sensibles, ou aux artisans qui nous font part de ces découvertes, et dans ces cas-là c'est pour nous une opportunité parce qu'elles sont assez rares. Et c'est aussi l'opportunité, évidemment, de les étudier et de collecter l'information pour qu'elle soit transmise plus tard au plus grand nombre. Parce qu'on ne connaît pas forcément le devenir de ces peintures dans le moyen et long terme. Parce que je rebondis sur ce que disait Carole, les édifices qui sont très bien connus, que ce soit église, château, souvent... Les décors peints sont protégés et là, nous, sur notre territoire, les décors peints des maisons ne le sont pas, ne sont pas protégés au titre des monuments historiques.
C'est toute la différence, en effet, c'est que lorsqu'un édifice est protégé, inscrit ou classé monument historique, il y a un suivi, en fait, derrière. Donc, comme il y a un suivi, on connaît mieux l'édifice, donc on peut le restaurer. Les peintures vont être plus préservées, en fait, parce que l'édifice va être surveillé. Et ce n'est pas le cas à l'intérieur des maisons. Parce qu'il n'y a pas de surveillance, évidemment, monument historique. Et puis surtout, autre chose quand même de très important, c'est qu'il faut savoir reconnaître la peinture murale. Voilà, et c'est vraiment une affaire de spécialistes, ce que nous ne sommes pas. Léa et Sandrine se sont appuyées sur de nombreux spécialistes de la peinture murale en Occitanie et ailleurs, hein, d'ailleurs. Et on peut tout à fait, un décor peint entier de l'époque médiévale ou d'une autre époque peut... passer totalement inaperçu parce que c'est des peintures, des liserés ocre, rouge, discret.
Et souvent, ce ne sont que des bribes de décors peints qui sont découverts. Oui. Pas forcément un décor dans sa totalité, c'est qu'une partie.
Quelle technique vous pouvez utiliser avec vos collègues, donc spécialistes du décor peint, pour trouver un sens à ce que vous avez trouver une histoire et puis. Quelle technique concrète vous utilisez pour ne pas l'abîmer plus que ça, ce bout de crayon derrière un pan de mur?
Alors c'est comme l'a dit Carole, hein, c'est des décors qui sont très fragiles. Donc en général, justement, on va éviter de les toucher directement. Déjà, très 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 simplement, on va éviter de les toucher parce que le moindre balayage ou grattage peut faire tomber des éléments peints. Donc ça, c'est déjà nous la première chose. Ensuite, donc évidemment, nous, on fait des photos, on essaye de comprendre l'étendue du décor et ce qu'il pourrait représenter. Mais comme on n'est pas spécialiste, on va faire appel à des spécialistes. Donc ce sont des historiens de l'art qui connaissent bien les différences de mode, oui, de décor qui permettent de les dater. Donc en fonction de, on va dire, de la forme des feuilles, par exemple, si on a un décor végétal. Un historien de l'art, comme il connaît bien le contexte en général des arbres représentés entre 1250 et 1322, il va pouvoir nous dire ça, c'est un arbre de telle époque précisément. Donc ça, c'est pour les historiens de l'art, c'est pour ce qu'on appelle le style du décor. On peut également faire appel à des conservateurs-restaurateurs qui, eux, vont avoir une approche vraiment plus technique sur les matériaux utilisés pour les enduits peints. Parce que ce qu'on appelle peinture murale, déjà, il y a une distinction importante à faire. C'est en fait ce que nous on appelle des enduits peints, donc c'est généralement des enduits à la chaux qui ont séché et ensuite les peintres sont venus peindre dessus avec en général des ocres, c'est les pigments de base, c'est les moins chers, le jaune, le rouge et puis ensuite le noir de charbon, le blanc de chaux, ça c'est la base des couleurs, c'est les plus simples, les moins chers. Donc ils font ça sur un enduit qui a séché et c'est pour bien le distinguer de la fresque. La fresque, on la rencontre très rarement. C'est une technique qui est très, très, très onéreuse, que ce soit au Moyen-Âge ou même dans des époques plus récentes, ou même à l'Antiquité, hein, puisque à l'Antiquité, on peignait souvent à fresque, mais pas seulement. La technique, c'est qu'en fait, l'enduit est posé, il est frais, il est donc humide, c'est d'où le nom fresque. Et le peintre vient peindre sur l'enduit humide. Donc l'enduit va absorber le pigment en séchant et le rendant très solide. C'est la particularité de la fresque qui tient bien dans le temps. C'est pour ça que dans des décors de l'Antiquité, par exemple, on retrouve des pans entiers, parfois de murs peints, parce que la technique, en fait, fait que la peinture est très solide. Nous, ce qu'on rencontre ici, et de façon assez générale, hein, c'est pas propre au pays Midi-Quercy, c'est de l'enduit peint, donc c'est un enduit qui a séché, qui est ensuite peint au-dessus, et ça a la particularité d'être très fragile. Donc on cumule un contexte où le décor est fragilisé parce qu'on est dans des maisons qui sont pas protégées monuments historiques, qui sont très sensibles aux modes de décoration. Donc on a envie de changer tous les 50 ans, on veut refaire son papier peint. Au Moyen-Âge, on refait sa peinture murale comme on refait son papier peint. Puisqu'il n'y a pas de papier peint. Et donc, on cumule un contexte où les décors sont en danger avec une technique qui elle-même est très fragile, puisque la couche picturale est vraiment très très mince. Et il suffit de... on peut imaginer, voilà, tout simplement, le cas d'un papier peint posé sur une peinture murale. Quand vous allez déchirer le lait, le risque, c'est d'emmener la peinture avec.
Il y en a beaucoup, des peintures murales de ce type en pays mini-quercine, dans des maisons, donc des maisons de privées.
Il y en a beaucoup, mais il y en a sans doute encore beaucoup à découvrir. En fait, la répartition des décors qu'on connaît est assez inégale dans les maisons. On en connaît beaucoup, par exemple, à Saint-Antonin, enfin beaucoup en nombre, hein, pas forcément en étendue de décors, je parle en nombre de maisons, à Saint-Antonin-Nobleval, parce que, par exemple, c'est un endroit où les suivis, les études sont presque systématiques, pas systématiques, mais presque systématiques. On connaît assez bien les maisons de Saint-Antonin-Nobleval, on y va régulièrement, donc on fait des découvertes. Il y a des cas de villes, ben, par exemple, comme Caylus, qu'on connaît mal, en fait, à l'intérieur. On connaît mal ces maisons médiévales, mais même parfois plus récentes. Et donc, on y connaît peu de décors. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est juste qu'on ne les a peut-être pas encore découverts, puisqu'on n'a pas fait d'études aussi systématiques qu'à Saint-Antonin. Et après, il y a des cas vraiment exceptionnels sur le territoire, qui sont les grandes maisons de Caussade, les tours d'Arles, par exemple, où là, il y a des quantités de décors peints vraiment, vraiment importantes, mais là, c'est des maisons vraiment exceptionnelles, même à l'échelle de la France, hein, quasiment.
Donc, il faut plutôt inciter les propriétaires de jolies maisons à faire appel à vous pour venir vérifier qu'est-ce que c'est ce truc bizarre derrière la tapisserie qu'on n'a pas encore tout arraché.
Oui, c'est ce qu'on invite à faire lors de travaux. S'il y a une hésitation, effectivement, nous appeler, qu'on collecte au moins la donner un premier avis et peut-être contacter des spécialistes pour avoir un avis justement plus fin. Là, on a beaucoup parlé de peinture médiévale, mais effectivement, l'intérêt se porte sur les peintures de toute période, hein, jusqu'au XXe siècle. Ces décors-là sont aussi intéressants à documenter et à préserver.
C'est plus facile de documenter les peintures les plus récentes que les peintures médiévales. C'est une difficulté supplémentaire qu'on a dans la maison, c'est que c'est très difficile d'attribuer le commanditaire de l'œuvre peinte, parce qu'on manque de sources, alors que, encore une fois, dans les monuments historiques, je pense encore au château de Biot ou à la tour d'Arles, on connaît le commanditaire. Pas parce que ce sont des... Je pense, par exemple, pour le château de Biot, la famille des Cardaillac, c'est un des plus prestigieux, les lignages du Quercy, donc ils sont ultra connus. Donc on sait précisément que la chapelle castrale de Biot, elle a été construite pour Bertrand V de Cardaillac. Et il se trouve qu'il y est enterré en 1336. Donc la peinture a été achevée pour ses obsèques. Donc on a le nom du commanditaire. C'est pareil pour la salle des Preux au château de Biot. Le décor est attribuable à Antoine II de Cardaillac cette fois-ci, qui lui est mort en 1547. Toutes ces informations-là, on les a plus volontiers pour les châteaux ou pour les églises, mais dans les maisons, c'est rarissime qu'on ait le commanditaire. Voilà.
Après, ces peintures, elles nous apportent aussi... L'intérêt, c'est d'avoir le commanditaire. Qui les a réalisées? C'est là aussi la question qu'on peut se poser. Et puis aussi la fonction de ces peintures. Pourquoi ce qu'elles nous racontent, ce qu'elles représentent. Il y a tout aussi ces interrogations. Et on se rend compte qu'une peinture, là on le découvrira peut-être plus amplement demain, enfin vous le découvrirez plus amplement demain à la conférence, mais elles peuvent avoir une fonction d'accueil, représenter un lignage effectivement, hein, des familles, ou encore accueillir une salle de bal. Voilà, donc c'est des destinations, des fonctions assez différentes.
Dans tout cas, c'était assez cher à l'époque, non, à réaliser. On ne le faisait pas n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quoi et par n'importe qui. Alors, Ça, on le sait pas trop. En l'état actuel des recherches, on sait juste que, par exemple, pour comparer la peinture murale à la tapisserie était bien plus onéreuse. Donc souvent, quand on ne pouvait pas avoir recours à de la tapisserie, on avait recours à de la peinture murale. En tout cas, c'est ce qui s'est passé au château de Bioul, encore une fois, puisque c'est un décor de fausse tenture qui est appliqué sur les murs. Et c'est d'ailleurs excessivement bien fait, puisqu'il y a une petite cordelette avec des petits points de suspension. Donc on voit l'affaissement de la tapisserie feinte. Donc c'est assez bien fait. Il y a un effet trompe-l'œil qui est vraiment très très bien fait à Bioul. Et donc ça, c'est pour éviter d'avoir recours à la tapisserie. Il y a beaucoup plus de tapisseries dans le nord de la France. C'est vrai que le midi de la France, c'est pas une terre de prédilection de la tapisserie, mais c'est surtout que ça coûte excessivement cher. Donc on utilise la peinture murale.
L'occasion d'en savoir plus, c'est demain lors d'une conférence à 20h à la salle des fêtes de Bruniquel. Conférence donc. Le décor peint dans les maisons du pays Midi-Quercy, état des dernières découvertes. On vous retrouve là-bas, c'est vous qui allez animer cette conférence. Donc Léa Jardin-Macario, Sandrine Ruefli et Carole Stanitsky. Une conférence gratuite est proposée dans le cadre de la labellisation Pays d'art et d'histoire du PUTR du pays Midi-Quercy. Un grand merci à toutes les trois et rendez-vous donc demain à 20h, à Bruniquel.
Merci.
Au revoir.
Merci.
say goodbye. Tomorrow, say goodbye.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Ce MAG à propos d'un nouveau site internet, le nouveau site autour du tourisme durable qui englobe tout ce qui est proposé en termes de tourisme sur les trois communautés de communes. Quercy-Vert-Aveyron, Quercy-Rouergue, Gorge de l'Aveyron et Quercy-Caussadet. On est avec Corinne Trévisan, la chargée de mission du PETR du pays Midi-Quercy. Bonjour Corinne.
Bonjour Lisa.
Tourisme durable.
Oui, effectivement. Tourisme durable, un grand chantier pour nous en Midi-Quercy, qu'on a attaqué déjà depuis quelques années, hein, mais maintenant qui commence à vraiment payer, puisque toutes nos actions pour accompagner les acteurs du tourisme vers un tourisme durable commencent vraiment à être visibles. Et du coup, ben, on a envie de les montrer. Et cet outil, le site internet gorgeaveyrontourisme.com, est une belle vitrine pour tous ces acteurs engagés vers un tourisme beaucoup plus durable, beaucoup plus vertueux. Et du coup, encourager les visiteurs à les rencontrer et à pratiquer des activités plus en respect de notre environnement. Voilà, c'est aussi l'éducation de nos visiteurs à travers les hôtes qu'ils vont rencontrer sur notre territoire.
Alors, on parle sport de pleine nature en particulier ou pas que ?
Pas que. Non, c'est vraiment le tourisme dans sa globalité. On va aussi parler circuits courts avec des restaurants qui travaillent avec les producteurs locaux. Voilà, on a mis vraiment cette notion de tourisme est très vaste. C'est aussi les commerçants qui mettent en avant voilà les artisans locaux. On est vraiment sur un tourisme voilà général, mais qui valorise les acteurs qui se sont engagés pour un tourisme plus durable de façon générale, quoi.
Lancement ce mercredi hein, donc de ce site internet gorgeaveyrontourisme.com. Un petit coup de cœur, Corinne ?
Moi, mon coup de cœur, forcément, ce sont les lieux et les acteurs qui sont un peu atypiques, comme le Fab Lab, par exemple, à Caylus, ou la Maison de la Halle, voilà, qui propose des petites soirées, le café associatif. Hein, voilà, vous retrouverez tous ces lieux un petit peu atypiques dans notre site internet. Ce sont des lieux comme ça qui font vivre et qui donnent une identité à notre territoire. Donc, on en est très fiers.
Gorgeaveyrontourisme.com, on le redit et on vous remercie Corinne Trévisan, la chargée de communication du PETR du Puy Midi-Quercy. Ouverture de ce site ce mercredi, on fête ça alors. Merci Corinne.
Merci Lisa.
Le MAG du Pays Midi-Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et le samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr.